On va aller à Tarahoy. Dans ce journal, on parlera de la guerre des opérateurs qui fait toujours rage dans les télécoms, un mot sur les sapins du cœur et puis du sport, ce sera en fin d'édition. Et on commence par la politique, et ce journal est présenté par Charlie René, désolé, salut Charlie.
Bonjour Harry, bonjour à tous.
Et on commence par la politique, ce nouveau rebondissement dans le feuilleton de la loi fiscale.
Et oui, ce matin, la commission de l'économie et des finances était réunie à nouveau, cette fois en présidence du président du pays. On rappelle que la loi fiscale a été examinée, amendée, amputée de deux articles sur la contribution sur le patrimoine immobilier et sur les véhicules électriques et hybrides. Et ce texte a été voté en commission le 21 novembre à l'unanimité, Tavini compris. C'est donc ce texte qui devait être présenté en séance plénière début décembre, mais le camp indépendantiste, éclairé en comité de majorité hier, veut à présent montrer un front uni. C'est donc un autre texte qu'il entend soumettre sans amputer des articles litigieux, et notamment celui sur la contribution sur le patrimoine. Écoutez.
Nous nous sommes concertés avec la majorité sur le fond de ce dispositif. Moi, je suis toujours constant dans mon analyse. Je pense que c'est une mesure qui est juste et équitable. C'est une question de timing. On veut le réinsérer dans la réflexion globale qui va s'opérer en 2024 sur la réforme fiscale.
Et autre article supprimé de ce nouveau texte, ou en tout cas largement revu, celui sur les véhicules électriques et hybrides qui conserveront une bonne partie des exonérations. Là aussi, c'est le gouvernement qui a reculé.
Ben oui, on écoute les gens. Vous savez, quand les concessionnaires montent au créneau, expriment, on va dire, leur opinion, on les a écoutés, on les a entendus et on a pris en compte donc leurs remarques.
Oui, et l'opinion aussi de l'opposition, puisque le Tavini reprend à son compte dans cette nouvelle mouture certaines propositions qui émanaient des autonomistes. Toute cette procédure est attaquable, dit le Tapoura, qui envisage un recours, puisqu'elle n'était pas prévue dans le règlement intérieur. La taxe sur l'immobilier serait donc repoussée à la réforme fiscale promise pour l'année prochaine, et les véhicules sur les véhicules hybrides, d'importantes exonérations sont maintenues, c'est ce qu'on a dit. Reste à réviser le projet de budget pour trouver les recettes manquantes.
Et toujours côté politique, une nomination.
Oui, pas celle du PDG de l'OPT qui est toujours aussi attendue, pas celle non plus du directeur général de TNTV, on vous précisait ce matin que ce serait pour janvier, mais celle du chef de la communication de la présidence. André Taïmanarii, très actif pendant la campagne de Mwete Brotherson, avait pris le poste après son élection. Il a démissionné il y a quelques jours. L'arrêté de nomination est tombée ce matin au journal officiel. C'est Jeanne Pekette-Pouera qui prendra la suite. Une journaliste passée par TNTV, Polynésie la Première, par l'éphémère magazine Boss ou par Hommes et Femmes de Polynésie, et qui officie aussi en communication et en média training. Autre nomination annoncée au journal officiel ce matin, celle de Maïre Sabre qui devient directrice générale de l'Institut Mallardé. Vous en avez parlé de cette candidate qui était largement pressentie. Cette cadre de la Socredo avait aussi fait un saut en politique au sein du Tauera il y a quelques années. Elle avait aussi été pressentie il y a quelques semaines pour prendre la direction de la CPS, poste finalement qui a été attribué à Romina Ma. À l'ILM, elle prend la suite du directeur par intérim Théama Richmond, qui avait remplacé lui-même Hervé Varé. Hervé Varé qui est devenu directeur de cabinet du ministre des Finances, Tevaiti Pomare.
Et on parle de téléphonie maintenant.
Et oui, et même de guerre dans la téléphonie. Elle fait rage depuis des années entre les opérateurs, et notamment entre Onati, qui gère le réseau Vini, et Pacific Mobile Telecom, les exploitants de Vodafone. Dernière bataille en date devant le tribunal de commerce. L'opérateur privé demandait 5 milliards de francs de dommages-intérêts à son concurrent public pour cause de pratiques anticoncurrentielles que l'autorité de la concurrence avait relevées sur des offres de Vini. Des offres qui avaient été corrigées après discussion avec l'autorité. Onati a donc respecté la procédure du droit de la concurrence, c'est ce qu'a souligné le tribunal de commerce qui a donc rejeté en bloc les demandes de Vodafone, une décision qui peut encore faire l'objet d'un appel.
Et justement, Vodafone menait une opération de communication ce matin.
Et oui, le genre d'opération qui n'a plus de secret pour l'opérateur privé. Offre spéciale Noël, calendrier de l'Avent des jeux, témoignages de clients ravis sur la qualité du service, contre-attaque aux publicités de Vini. À bord du Vaiarei, autre symbole de concurrence sur son marché, Patrick Moux n'a en revanche pas commenté la décision du tribunal de commerce tombée juste avant la conférence de presse. Le patron de Vodafone a préféré interpeller sur les procédures toujours en cours, celles notamment lancées auprès de l'autorité de la concurrence, justement sur l'obligation faite par l'OPT de payer une ligne téléphonique fixe pour avoir accès à l'internet par fibre optique, 3565 francs par mois, alors même que ce sont deux réseaux différents, une vente liée et un abus de position dominante. C'est en tout cas ce que prétend l'opérateur privé.
J'espère que d'ici là et avant la fin de la procédure, j'espère que Onati entendra raison et arrêtera de faire payer cela aux Polynésiens. Mais bon, ça, c'est pas moi qui décide.
Patrick Moux, qui, vous l'entendez, était donc à bord du Vaiarei pour cette conférence de presse. Patrick Moux, qui militait, fut une époque contre un autre blocage de l'OPT, celui de la portabilité du numéro. Alors, vous le savez, il est impossible en Polynésie de changer d'opérateur en conservant ses 8 chiffres. Il faut à minima changer l'indicatif de 87 à 88 ou 89 ou dans l'autre sens, alors que la portabilité est un droit garanti depuis 20 ans en Europe et qu'il est prévu dans la loi polynésienne depuis un certain nombre d'années aussi. Ça n'est pas Vodafone mais Viti qui tente de faire changer les choses de ce côté-là et qui a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif il y a quelques semaines. Des réunions techniques ont depuis eu lieu avec les opérateurs et Vodafone, qui a beaucoup investi d'argent pour imposer son 89 dans le paysage, se montre plutôt frileux. Écoutez.
Quand nous regardons notre évolution, on n'a pas eu la portabilité, on a pu quand même évoluer. Ce qui nous a ralenti, c'est vraiment tous les coups bas que l'OPT a pu nous faire. C'était ça le vrai problème. La portabilité n'est pas un souci en absolu. Ce qui est aujourd'hui important, c'est savoir le coût de la portabilité. C'est ce que je dis aux instances. Est-ce que ça vaut la peine de faire porter cette charge indirectement aux Polynésiens? Parce que si on la met en taxe ou en prélèvement de quelque ordre que ce soit, au final, ça va le trouver sur le prix de vente.
Voilà, Patrick Moux, le vice-président de Pacific Mobile Telecom et donc de Vodafone, qui préférerait donc que cette portabilité de numéro soit mise à la trappe. Ce n'est ni l'avis de Viti, ni celui de la justice, et peut-être pas celui du gouvernement, qui a été condamné à lever cette restriction du marché sous peine d'astreinte.
L'opération Les Sapins du Cœur est de retour.
Et oui, et comme chaque année à la même période depuis 2016, l'association SOS Village d'Enfants lance sa grande opération caritative de Noël. Elle a officiellement démarré ce matin à l'hôtel Hilton de Faa. Cette année, 13 entreprises ont accepté de se prêter au jeu en contrepartie d'une participation de 100 000 francs. Toutes ont donc décoré un sapin qui est exposé dans le hall de l'hôtel. Sous chacun, une urne est placée. Les visiteurs sont invités à glisser un don dans celle de leur sapin favori. Une fois les dons récoltés, les participations seront reversées à l'association SOS Village d'Enfants pour financer des projets en faveur des enfants. Les précisions de Ludovic Dupont, le directeur justement de Village, au micro de Veitière et Pereire.
Tous les fonds qui sont récoltés chaque année partent directement à destination des enfants, soit sur des activités qui ont un certain coût, mais qui rapportent énormément au niveau des enfants. On peut avoir aussi des activités un petit peu parallèles par rapport à d'autres prises en charge beaucoup plus classiques, comme la médiation animale. Ça permet aussi des activités extrascolaires. Et enfin, tout cet argent aide aussi, lorsque les étudiants ont obtenu leur bac, les désirs de vouloir aller en métropole, par exemple, faire les études. Et là aussi, nous, on peut accompagner financièrement ces jeunes.
Voilà, et à noter aussi que c'est SOS Village d'Enfants qui prend en charge des enfants abandonnés ou en danger, et SOS Village d'Enfants est en manque de mères SOS, écoutez.
Nous sommes à la recherche aujourd'hui de 2 postes de mères SOS, ces professionnels qui prennent en charge au quotidien les enfants, qui peuvent accueillir une fratrie dès l'âge de 3 ans et pouvoir les accompagner jusqu'à 18 ans, voire jusqu'à 21. Ils auront un faré avec la possibilité d'accueillir jusqu'à 5 enfants. C'est des contrats de travail, on cherche des CDI. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir déjà de l'expérience auprès des enfants, mais ne serait-ce que d'être maman, c'est une expérience. S'il y a un BAFA, un CAP petite enfance, c'est toujours du plus.
Voilà, et des enfants qui attendent donc des dons sous les sapins qui sont exposés à l'hôtel Hilton, c'est jusqu'au 31 décembre.
On continue dans le caritatif.
Et oui, dans le caritatif avec le caritatif du côté d'un autre hôtel, du côté de l'Intercontinental, avec l'opération menée par les marraines. On en avait parlé sur cette antenne et on voulait juste vous rappeler que cette opération avait débuté ce matin et tiendra pendant tout le week-end. Vous pouvez vous rendre sur place pour aller être à la rencontre donc de ces artisans et de ces exposants qui vendent pour la bonne cause, bien sûr, des objets et des très beaux cadeaux de Noël.
Et puis c'est bientôt fini.
Oui, c'est bientôt fini ce journal, mais surtout ce sont les Jeux du Pacifique qui touchent à leur fin. L'avant-dernière journée de compétition s'est terminée il y a quelques heures avec encore une fois de belles performances de la délégation tahitienne. En aquathlon d'abord, avec un nouveau doublé pour Salomé de Barthez devant Mehdi Sucé. Benjamin Zorniotti et Jean-Marc Rimaud font un doublé aussi, mais en argent et bronze, l'or revenant au champion du monde de swimrun calédonien Hugo Tormento, ce qui n'empêche pas Tahiti de décrocher l'or par équipe. Même performance en relais mixte de triathlon, Benjamin Zorniotti et Salomé de Barthez ont dominé malgré la fatigue. Écoutez.
Cette troisième course, les jambes étaient lourdes et je pense que Benjamin a beaucoup plus forcé que moi sur ce relais parce qu'il voulait que j'aie les jambes un peu fraîches pour demain. Mais oui, la fatigue commence à se faire ressentir.
Et demain, c'est aujourd'hui pour Salomé de Barthez qui vise une nouvelle médaille d'or en semi-marathon. Pas de secret sur sa stratégie. Je vais me planquer derrière celle qui donne l'allure et j'essaierai d'accélérer au 15e kilomètre. Les concurrentes sont donc prévenues et les concurrentes étaient aussi prévenues de la bonne forme d'Amandine Matera, alignée hier sur le 3000 mètres steeple. Eh bien, la Tahitienne n'a pas flanché, de l'or encore et de l'argent au lancer de poids pour Tomatei Dauphin. Takina Bernardino s'est offert, lui, le bronze sur 400 mètres et. Mais il n'y avait pas que les dieux du stade à aller applaudir hier, il y avait aussi les dieux de la rame. Deux victoires tahitiennes en V6 marathon hommes et femmes, c'était attendu, mais ça fait quand même du bien, ça fait quand même du bien notamment à Iloa Echen qui avait préféré se concentrer sur le kayak dans ses jeux, mais qui a retrouvé le va en position de pépérou pour ses marathons. Écoutez.
Le vivier de rameuse, il est assez conséquent, donc je pense que j'ai pas fait défaut à la discipline. Par contre, en kayak, on était beaucoup moins nombreuses et on avait besoin de ramener des médailles pour justifier le travail qui était fait. Pour le kayak, c'était important de concrétiser tout le travail qui avait déjà été fait. Donc voilà, les médailles sont là pour.
Voilà, Iloa Echen qui en est à sa 5e médaille d'or dans cette édition. C'est simple, c'est l'athlète tahitienne la plus récompensée au Salomon. Le va polynésien fait au global un peu moins bien que les autres années, mais conserve sa domination. 8 des 12 médailles d'or possibles reviendront à la maison. Des médailles aussi en vue aujourd'hui pour les basketteuses qualifiées en demi-finale de 3 contre 3. La délégation a aussi connu des défaites en beach volley et en football féminin, mais des victoires en revanche en boxe. Alors pas pour Florani, qui a été déclarée battue par une combattante de Papouasie. Décision que le camp tahitien a dénoncé d'une seule voix. Tant pis, il y a encore des chances de médailles pour d'autres boxeurs. Ereani Temarono ainsi que Taotua et Gabriel Dauphin. On vous tiendra bien sûr au courant des résultats de ces matchs sur Radio 1 et Thiel FM avec un suspense particulier. L'objectif de 55 médailles d'or va-t-il être atteint? Eh bien, on n'en est pas loin avec 51 titres ce matin et une journée qui reste. 51 titres, c'est déjà un record pour Tahiti qui pointe à la deuxième marche du tableau des médailles. Voilà, c'est enfin la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Comme d'habitude, le retour de l'actu, c'est à 16h et ce sera pour le Flash.